There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quand on monte une boîte, c'est tellement un marathon, c'est tellement long. Il y a les TechCrunch et compagnie qui parlent de succès qui, en 2 ans, explosent les compteurs. Ouais, il y en a, mais c'est epsilon en numériquement, tu vois, par rapport à toutes les startups qui se créent. La plupart, c'est des histoires longues, c'est des histoires qui ont au moins plus de 6 ans.
Bienvenue dans Tech Off, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin, Rachel Delacour me reçoit chez elle, près de Montpellier, à quelques kilomètres des locaux de BIM Analytics, l'entreprise qu'elle a créée avec son mari avant de la revendre à l'américain Zendesk il y a 2 ans. Depuis, elle multiplie les voyages entre Paris, San Francisco et le sud de la France avec plusieurs objectifs en tête. Inspirer, donner le courage aux femmes d'entreprendre et convaincre qu'il faut se battre sans relâche pour changer les choses. Son aventure, c'est un marathon, c'est elle qui le dit. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont élue à la coprésidence de l'association France Digital comptent sur elle pour que l'écosystème de la French Tech ne s'endorme pas sur ses bons résultats.
Ce que je vois, c'est que bon, ça s'est quand même structuré. Le volontarisme, on va dire, politique, il est encore là. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça fait que bah, tu as au CES la délégation française qui est seconde en fait en nombre, tu vois, de startups représentées. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que ça va plutôt dans le bon sens. Moi, ce qui me fait surtout très plaisir, c'est de voir des annonces comme hier ou avant-hier, où on voit une jeune boîte comme Front, qui est l'idée d'ailleurs par la CEO, donc Mathilde Collin, qui lève un très gros montant avec des VC américains pour finalement venir ouvrir un bureau à Paris, tu vois. Donc ça, c'est les vrais signaux très positifs que je vois. Après, en 4 ans, on n'a pas plus de licornes que ça. En 2017, les licornes européennes, elles sont pas en France, les nouvelles en tout cas. Donc, il y a encore énormément à faire, quoi.
Comment t'expliques
ça? Ça devrait aller beaucoup plus vite. Tu vois, ouais. On parle de 4 ans, on devrait avoir avec tout ce qui a été investi. Enfin, comment dire? Il y a une volonté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement, quoi.
Et donc, c'est ça la raison principale, le manque que ce soit des licornes ou en tout cas des entreprises qui ont passé un certain stade de maturité. En France, on n'en a pas assez.
Non.
Et selon toi, c'est dû à ce manque d'investissement à partir d'un certain seuil ou de rachat?
C'est dû à pas mal de choses et c'est ce qui fait mon engagement chez France Digital aujourd'hui, par exemple, qui sont sur des questions de mobilisation de l'épargne longue, faire qu'on comprenne enfin, pour de bon, qu'on a un vrai souci sur la mobilisation de l'épargne longue et que c'est ce qui fait justement c'est ce qui fait la réussite des États-Unis, des pays comme la Chine, où il y a une capacité d'investissement sur le long terme pour les startups très tech, très innovantes qui est là, quoi. Et on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas ça parce qu'on n'est toujours pas fichu de faire que l'assurance vie, enfin qu'il y ait une portion correcte qui soit allouée au capital risque. Et quand t'as pas résolu ce genre de problématique, ben tu il n'y a pas de futur en soi, si tu veux. Quand tu ne résous pas ça, tu te coupes d'un potentiel énorme, quoi. Et puis ça nous fait prendre du retard.
Mais c'est un problème culturel, ça, en France, non?
C'est un problème culturel de l'épargnant à qui il faut dire pense à investir de manière un petit peu plus risquée, quoi. Il faut qu'on ait une économie qui soit beaucoup plus tournée aussi vers le risque. Mais on en est très loin. Et là, c'est vrai qu'il y a des réformes qui se jouent actuellement sur l'assurance vie. On essaie, par exemple, de démontrer en fait à tous ces politiques et leur démontrer par A plus B, non mais regardez ce qui se fait ailleurs, regardez pourquoi, et décortiquer la réussite aussi de ces boîtes ailleurs, et pourquoi ils ont ces financements longs, etc. Et puis pour leur montrer que si on commence à dupliquer un peu le modèle, on arrivera peut-être à faire d'autres choses. Après, il y a les régulations européennes aussi, enfin, tu vois, il n'y a pas que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'obstacles, quoi. Beaucoup d'obstacles et 4 années, c'est énorme pour un pays comme la Chine, pour un pays comme les États-Unis. Tu vois le gap qui se crée.
Et justement, tu parlais de licorne. En France, il y en a quand même quelques-unes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup il commence en tout cas à y avoir un certain bruit autour d'elles sur le fait qu'elles rencontrent des difficultés. Elles ont une dizaine d'années. Elles ont une forte, très très forte croissance. Ce qui est finalement assez normal qu'elles rencontrent des difficultés à un moment donné dans leur parcours.
Puis, y a des boîtes américaines aussi. Enfin, tu vois, après, c'est des sujets liés à l'exécution. Tout n'est pas lié au sujet de financement, mais en tout cas...
Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une espèce de start-up bashing qui commence un peu à monter en filigrane? On commence à avoir des papiers, des articles dans certains magazines. On entend des prises de parole qui commencent un peu à inverser le storytelling autour des start-up.
Moi, je le vois pas comme ça. Je pense, tu vois, à côté de ça, ouais, il y a 4 ans, justement, quand je faisais un petit speech, de fin de remise de diplôme, tu vois, à Kedge Business School, enfin, Sup de Commerceil, et que, en fait, je devais me battre pour démontrer, en fait, à l'audience des jeunes diplômés que la vraie voie royale, selon moi, c'était l'entrepreneuriat et que, mince, quoi, réveillez-vous, montez vos boîtes. Et tu vois qu'en fait, j'y suis retournée, il y a un an et demi, ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, tu te rends compte qu'ils veulent tous monter leur boîte. Donc, non, il y a aussi cette évolution des jeunes. Tu le vois, quoi. Tout le monde a envie de monter sa boîte aujourd'hui. Moi, je pense pas qu'on soit dans un start-up bashing quand tu vois que tout le monde n'en voit que par Station F, que tous les jeunes veulent monter leur boîte, que tous les magazines féminins parlent de start-up aussi. Enfin, tu vois, il y a... Moi, je le vois pas comme ça. Après, une boîte qui réussit et puis qui est un peu sous le feu des projecteurs, bien évidemment qu'elle est... Ben, forcément, t'as la critique, des sujets... Enfin, tu vois, quand tu commences à avoir les lumières qui se braquent sur qu'est-ce qu'il y a exactement derrière un rideau de start-up, oui, en effet, c'est pas tout rose, mais c'est comme toutes les boîtes, quoi.
Et justement, l'une des principales critiques tourne autour de la culture, qui est très masculine, qui est très geek, qui peut parfois être même très machiste. Hein. On voit bien les écueils que ça pose dans la Silicon Valley. Comment l'écosystème français peut continuer à grandir en évitant justement de rentrer dans ces écueils-là?
Écoute, ce que je vois aussi, c'est... Moi, je vois les côtés très positifs. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a intégré l'entreprise Zendesk. On a été racheté par cette entreprise américaine, californienne, qui a été fondée par des Européens. Donc, ça joue aussi, hein, tu vois, culturellement. Moi, ce que je vois, c'est que, tu vois, on a des diversity managers. Il y a le problème qui est lié aux biais qui peuvent être dans ces boîtes très tech californiennes qui sont habituées à la bro culture, tu vois. Moi, le management, le CEO, en a plus que conscience et c'est non, on tue le problème dans l'œuf. Enfin, pourvu qu'ils soient encore à l'état d'œuf, quoi, on va dire. Mais on met ces diversity managers pour être sûr que, voilà, on va vers une... On a des valeurs et on veut que ça évolue dans le bon sens, on fait ça pour qu'il y ait un monde meilleur, et ça passe aussi par ce genre d'action. Et moi, je regarde plutôt ces modèles-là, et je pense plutôt qu'il faut parler de ça, et qu'on a tout à s'inspirer, finalement, de ce genre de modèle. Moi, dans ma start-up, j'ai toujours eu énormément de mal à recruter des femmes, énormément de mal. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que les CV qui arrivaient étaient en proportion inexistant, de toute façon. C'était même pas un petit pourcentage, c'était sur certains postes d'ingénierie plutôt très deep tech ou ce genre de choses, je n'avais strictement aucun CV féminin, quoi. Et à un moment donné, ta boîte, il faut que ça aille vite, quoi. Donc tu peux pas... On a un problème au niveau de la génération, si tu veux, le fait que l'éducation nationale soit pas aujourd'hui capable de générer suffisamment de jeunes femmes, enfin, qu'on soit pas capable de former suffisamment de jeunes femmes au métier tech, ça passe aussi par, tu vois, aujourd'hui, les fameux métiers tech en question, t'es supposé faire plutôt un bac S, et puis une fois que tu fais ton école d'ingé, dans ton école d'ingé, il faut que tu choisisses un cursus plutôt... développeur, codeur, enfin tu vois, j'essaie de, enfin là je schématise un peu, mais quand tu as dit ça, tu passes énormément de cases par lesquelles les jeunes femmes en tout cas aujourd'hui ne se reconnaissent pas. Donc ça crée un goulot d'étranglement où en sortie tu auras par statistiquement très très peu de femmes. Donc
tu l'as vu évoluer, ça, quand même,
je l'ai vu un tout petit peu évoluer, mais ça ne va vraiment pas assez vite, quoi. Vraiment pas assez vite. Donc, tu vois, c'est pareil. Chez France Digital, moi, quand j'ai vu ce que l'association essayait de faire passer comme message et les actions sur, tu vois, la création d'un bac numérique pour faire que des plus jeunes accèdent beaucoup plus tôt dans leur cursus au numérique. Quand tu vois, c'est mécaniquement, tu vas forcément amener beaucoup plus de femmes, de jeunes femmes, dans ces métiers-là. Donc ça va forcément amener des cultures de start-up quand tu recrutes qui vont être beaucoup plus diverses. Mmh. Tu vois, la mécanique, elle est vraiment en entrée et elle passe par l'éducation. Après, tu peux pas bâcher une jeune start-up parce qu'elle est, elle a que des mecs, tu vois, ou aux commandes, ou dans les effectifs, quoi, parce que faut aller vite, faut recruter, tu recrutes les meilleurs, et puis bah statistiquement, quand t'as surtout que des hommes, c'est vrai que c'est difficile de se faire violence. Enfin, puis même si tu te fais violence, de toute façon, tu les as pas les CV, donc. Tu vois,
il y a d'autres écosystèmes.
Quelles sont tes batailles, à quel moment, quoi. C'est ça, le truc. Et c'est terrible de dire ça alors que je suis une femme, mais je t'assure qu'avec énormément de bonne volonté, je n'y arrivais pas, quoi. Donc à un moment donné, il faut aller vite.
Il y a d'autres écosystèmes que tu as beaucoup voyagé, donc où ce ratio est un peu moins caricatural.
Dans la tech ?
Ouais.
Non, peut-être. Alors, pour le coup, moi, je suis jamais allée en Iran, mais figure-toi que j'étais à South by Southwest l'an dernier, et il y avait justement une personne de l'ONU qui s'occupe principalement de l'organisation, donc enfin. Côté femme, et cette personne avait invité une Iranienne et qui justement parlait de... Et ça, il faut absolument que je creuse ce sujet, où en fait, il y a énormément de femmes iraniennes, codeuses, développeuses, dans ce pays. D'accord. En fait, en proportion, il y a plus de femmes codeuses, développeuses que d'hommes, tu vois. Donc, voilà, quels sont les ressorts, qu'est-ce qui fait ça. C'était très intéressant de voir en fait que, elle soutenait que c'est ce qui se passait dans son pays et qu'on avait beaucoup de choses à apprendre aussi, quoi.
Alors toi, on va parler un petit peu de ton histoire avec Beam Analytics, donc la startup que tu as créée en 2009, hein, c'est ça ?
Oui.
À l'époque, tu
avec
étais...
Avec mon mari que tu as croisé ce matin.
Avec ton mari, exactement.
Au café.
Donc à l'époque, tu sortais, et lui aussi, d'une petite expérience dans des grands groupes, donc vraiment le chemin, on va dire, traditionnel post-académique.
Voilà.
Quel est le regard à l'époque quand vous décidez tous les deux de monter la boîte, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors déjà, il y a beaucoup, beaucoup moins de hype, tu vois, si, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Donc déjà, on savait pas qu'on était en train de créer une start-up. Nous, on voulait juste répondre à une grosse frustration qu'on avait techniquement sur un sujet très précis, mais on savait pas qu'on était en train de cocher la case de création de start-up. Ça, on l'a su un petit peu plus tard. Et peut-être que ça nous a aidé aussi parce que justement, on s'est un petit peu moins illusionnés, je pense, que beaucoup aujourd'hui, mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous a dit ? C'est sûr que Le vrai sujet, il est surtout qui va payer ton prêt étudiant, ma grande, voilà. Et sachant qu'on était deux moi j'étais plutôt boursière, enfin tu vois, c'était quid de ce remboursement d'emprunt, etc. Donc ça, c'est des risques financiers que tu prends. Donc qu'est-ce qu'on te dit, c'est vous allez vivre dans des conditions, parce que vous quittez votre job, est-ce que vous avez conscience de faire un pas en arrière, parce qu'on te parle comme ça, vu que tout est, en tout cas dans l'esprit de chacun, tout est lié vraiment à ton évolution et finalement ton évolution financière, dans le regard de beaucoup de personnes. Donc on te dit, mais tu es en train de faire des pas en arrière, alors que non. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais dans le regard de peut-être des parents qui sont un tout petit peu peut-être moins éduqués sur ces sujets, même le regard de plein de copains à toi, de promos, tu vois, qui continuent d'avoir des promotions et qui commencent à se payer des vacances un peu sympas, en tout cas plus étudiantes, dans le regard de toutes ces personnes-là, tu fais des pas en arrière, quoi. Donc c'est dur, tu vois, quand on dit que tu fais des pas en arrière. Après, nous, on a toujours été convaincus que ce qu'on faisait... en tout cas répondait vraiment à un besoin identifié sur le marché, et que de toute façon ce serait très compliqué parce que tu crées pas des succès en un jour, ça c'est faux et ça faut se le redire. Donc c'était difficile, mais c'est vrai qu'on s'est lancé à deux, on était en couple aussi, donc je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé, tu vois. Après, c'est vrai que quand t'as dit ça, tu dis que tu mettais tous tes œufs dans le même panier, quoi, parce que on était justement en couple, on partait tous les deux justement. Voilà, c'est ce qui a fait aussi qu'on est reparti chez nos parents, parce qu'on avait, qui dit plus de financement, enfin qui dit plus de salaire, hein.
D'accord,
dit
vous avez vécu chez vos parents.
On est retourné chez les parents de mon mari, d'ailleurs, parce que c'était impossible de se payer un loyer parisien sans salaire, et puis autant te dire que même ne serait-ce que retrouver un petit appartement minuscule, quand t'as plus de boulot, c'est impossible. Puis alors, parfois je me dis que c'est même peut-être plus facile pour une personne qui n'a pas de boulot plutôt que pour une personne qui monte une boîte, tu vois. C'est encore moins bien vu, tu vois. Non mais c'est fou. Et on est retourné donc chez des parents qui avaient suffisamment de surface pour nous accueillir. C'est pour ça qu'on est à Montpellier et qu'on est resté finalement à Montpellier. Mais ouais, c'est des sacrifices parce que t'as bientôt 30 ans. Nous, on avait 27, 28 ans. Bon, c'est... Moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais partie de chez mes propres parents. Donc, tu vois, tu retournes chez tes beaux-parents. Donc, ils sont adorables, mais t'es pas chez toi, quoi. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, quand on dit qu'on fait des sacrifices, c'est ça. Ça passe par ça aussi. Le quotidien, il est dur, tu vois. T'as pas d'argent, t'as pas de produits. parce que ça, c'est pareil. Ça se construit pas en un jour. Donc, en fait, tu parles de choses qui n'existent pas encore. Donc,
faut
garder la foi, quoi. Garder la foi au quotidien, franchement. J'imagine. Dans ces conditions-là, c'est compliqué, quoi. Surtout qu'on a eu la bonne idée de se dire que c'était quand même aussi une bonne idée de se marier, donc avec zéro fric. Donc, ça, c'était voilà, n'importe quoi. Mais bon, ouais.
Expliquer ce que vous faisiez, Bimanetics, pour le commun.
Expliquer,
mortels,
et surtout qu'en fait, le vrai souci de ça, c'est que pendant longtemps, on nous a trouvé aussi très sympa, très cutting edge, entre guillemets, c'est-à-dire très innovant, mais que du coup, on nous attendait surtout pour expliquer ce qu'était le cloud computing, plutôt que la valeur d'usage qu'on en faisait, nous, c'est-à-dire sur la business intelligence, sur l'analyse de données. Nous, on utilisait toutes les infrastructures du cloud pour justement moderniser et démocratiser cet accès à la business intelligence qu'on revoyait de façon extrêmement moderne dans les interfaces, via toutes ces infrastructures, justement, dont on faisait un vrai effet de levier pour amener un produit... toujours très innovant, etc., mais à moindre coût, parce que c'est ça aussi, ça nous permettait vraiment de couper les coûts de ces produits de business intelligence traditionnels. On amenait ça donc pour une fraction du prix, on amenait ça en self-service, on amenait ça en SaaS, donc en service consommé mensuellement, tu vois, à l'abonnement. Donc nous, notre vraie valeur, elle était sur ça, mais en fait, on nous faisait surtout venir, que ce soit quand on commençait à s'intéresser à nous, c'était bon, alors Rachel, expliquez-nous cloud computing. Et en fait, pendant longtemps, si tu veux, tu prends tous les micros, tu prends tous les... T'as pas d'argent au niveau marketing, tu vois. T'es obligé à un moment donné de ne serait-ce que confronter ton pitch. Hein, donc, c'est important de se faire violence aussi et d'aller là où on te donne un petit peu de lumière, etc. Mais en fait, moi, on me demandait d'éduquer sur le cloud computing. Et moi, j'étais pas SAP, moi, j'étais pas Microsoft, j'étais pas... Donc, en fait, t'es sympa, t'as une bonne bouille, et puis tu parles un peu avec deux, trois anglicismes, tu montres que tu vas à San Francisco, donc tout le monde veut te faire parler, mais en fait, on t'épuise, quoi. On t'épuise parce qu'on te demande d'éduquer le marché sur un truc qui, en plus de ça, n'est pas ton corps métier, quoi. Donc ça, mais on a appris beaucoup, tu vois, on a appris beaucoup là-dessus aussi, de quel type de communication vous voulez avoir, quand est-ce que tu prends la parole, et pour dire quoi, et donc ça nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes aussi, ça nous a permis de montrer aussi à nos premiers business angels qui commençaient à s'intéresser à nous que qu'a priori on était sur des sujets qui étaient plutôt hot, entre guillemets. Donc voilà.
Lesquels vous ont suivi, les premiers?
Alors les premiers c'était du réseau plutôt personnel, d'entrepreneurs français qui avaient réussi à l'international et qui avaient même monté une multinationale très tech, très software, très B2B, donc ce qui était vraiment assez proche de nous. Donc en fait, on a capté l'attention de cette personne qui s'appelle François Legros, qui est d'ailleurs un Montpelliérain. Et en fait, ce qui était super, c'est que François, en fait, il voyait aussi que moi, il voyait très bien que l'audience et tout le mon quotidien, moi, je le passais sur LinkedIn. Et j'allais pour présenter notre idée, je testais quelles seraient, en fait, finalement, on pensait, nous, qu'on avait certaines cibles en question, mais faut quand même aller confronter ton discours pour voir si t'es pas en train de te tromper, est-ce que tu t'illusionnes ou pas. Et en fait... je faisais ce travail-là sur des sujets entre guillemets français, je faisais ce travail-là sur des sujets, des personnes en UK, aux États-Unis, et en fait en France on m'ignorait complètement, aux États-Unis ça fonctionnait très bien, ces mêmes personnes me disaient Rachel, je veux des feedbacks, je veux que tu nous fasses des démos, je veux que le même DSI de grands groupes, etc., m'ouvrait les portes, voilà. Et en fait, quand on parlait de ces retours-là avec cet entrepreneur, il voyait que on était sur un sujet qui était plutôt il y avait beaucoup moins de barrières psychologiques sur ce sujet aux États-Unis. Et en fait, il a commencé à nous faire rencontrer aussi des Américains qui étaient aussi responsive, entre guillemets, que tous ces autres que j'allais chercher sur LinkedIn. Et en fait, on a réussi à avoir finalement des business angels américains Là où n'importe quelle start-up française commence par un petit peu de BA français, et puis ensuite éventuellement le Graal c'est d'avoir des VC étrangers, et quand je dis le Graal c'est juste que ça permet d'avoir des, beaucoup plus de fonds, voilà. Donc nous on a commencé avec des BA américains, et en fait ça a été un vrai ce qui a été ce qu'on ne voyait pas, enfin forcément c'était très sexy aussi de dire que tu as réussi à avoir à capter des fonds et de l'attention d'Américains qui comprennent ton business et qui du coup apportent vraiment du smart et de l'international dans ton histoire. Ce qui a été super, c'est qu'on savait qu'on avait un produit qui pouvait se vendre en jour 1 à l'international, parce que la techno permettait de ne pas aller taper aux portes de chacun, mais d'être consommé en fait vraiment à la demande, et en fait d'avoir ces personnes-là, si tu veux, ça nous a mis un coup de boost sur tous les réflexes d'internationalisation. À chaque fois qu'on parlait fonctionnalité, chaque fois qu'on parlait recrutement, chaque fois qu'on parlait développement, pitch marketing, si tu veux, avec ce genre de personnes avec qui tu échanges au mois le mois, parce que dans tes board meetings, etc., ça a été tellement un boost pour nous, parce que on était toujours dans une position d'internationalisation. Donc nous, on nous a toujours dit « Ah, mais vous avez tout... » Tu vois, les premiers VC qu'on rencontrait pour faire notre série A français, quand ils nous disaient « Ah, mais c'est super, hein, les réflexes que vous avez eus. » Mais c'est vrai que la techno nous le permettait, mais en plus, on s'est très bien entouré pour se forcer à avoir ces réflexes-là aussi. Quoi. C'est facile de vouloir... tu vois, ça peut être facile, finalement, de s'enfermer dans ce marché français. Tu vois, c'est plus confortable, c'est ta langue. Ouais, c'est un écueil. Ouais. Et moi, je comprends toujours pas, même en 2018, là, quand... sur l'espace incubation d'accompagnement qu'on a à Zendesk, à Station F, quand j'ai encore certaines boîtes qui me disent « Ah non, mais attends, Rachel, moi je vais commencer par voir un petit peu, tester le marché français. » Et je me dis « Mais tu sais quoi, en fait, on arrête de discuter, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, ton histoire. » Elle a pas moins de mérite, tu vois, ça dépend de l'ambition de chacun. Il y en a qui vont être très heureux avec une plus petite histoire. Mais moi, je me dis « Mais comment est-ce que je peux encore parler à des jeunes qui n'ont pas envie d'aller croquer la planète, quoi, tu vois ?» C'est possible aujourd'hui, surtout quand tu as des techno web. Enfin, tu vois, bon, forcément, je parle de numérique, là, hein, je ne parle pas de manufacture ou quoi. Mais ces Américains-là, en fait, aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui. Il y a un truc culturel sur la vente aussi. On n'est franchement pas de bons vendeurs. Et moi, ces Américains, mais jour 1, alors que j'avais une pauvre fonctionnalité qui se battait, donc qui ne pouvait même pas se battre en duel, hein, tu vois, mais j'avais vraiment pas grand-chose, on me disait « Rachel, tu vends ». Non, mais je disais « Mais attendez, moi, je ne peux pas vendre ça. C'est ridicule, quoi. Je ne vais pas demander à quelqu'un de payer pour ça. » « Non, Rachel, tu vends. » Et en fait... finalement, c'était super, quoi, parce que ça nous a très tôt permis de tester nos prix, très tôt de tester quel peut être vraiment le bon business model qui fonctionne bien. Et tu vois, là où une boîte française, et je le vois, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas vrai. Mais statistiquement, j'en vois encore beaucoup qui ont ces réflexes-là, alors que...
Le produit parfait.
Tu vois, moi, alors que moi, tu vois, j'avais déjà ces réflexes-là, on va dire, en... tu vois, on est en 2018, il y a plus de 8 ans. Et c'est tu le vois, c'est encore prégnant dans cette génération là quoi, donc stop.
Et alors toi, stop. Justement, ce qui m'a marqué, c'est que tu racontais que tu utilisais beaucoup LinkedIn justement pour
LinkedIn était mon ami, hein.
C'était système D en termes de canal de vente,
mais système D, mais en même temps plus effectif, hein. Enfin, ouais. plus efficient, tout ce que tu vois, tout, moi je suis dithyrambique par rapport à ce genre d'outils, parce que c'était sans avoir un CRM, tu vois, un CRM performant, il faut l'alimenter quand même, ça veut dire que t'as déjà eu des actions de prospection, etc. LinkedIn, ça me permettait pour moi de filtrer en payant un petit abonnement pas très cher, et d'avoir accès à la planète Terre et de tester ton pitch, quand tu lances un produit, enfin, je veux dire, tu peux pas faire plan de sur la comète si t'as pas commencé à aller le confronter avec, voilà, est-ce que tel type d'acheteur, qui est ton acheteur, tu vois.
Et tu te souviens du premier client, entre guillemets, sur LinkedIn que t'as trouvé, tu t'es dit, oula, j'ai
En plus, fait, au début, c'était pas tant de la recherche de clients, c'était la recherche de feedback. Est-ce que je me trompe si je parle à tel contrôleur de gestion de tel type d'industrie, telle taille de boîte? Est-ce que je me trompe? Tel pays, par exemple. Est-ce que je me trompe si... où est-ce que je fais mouche, justement, si je parle plutôt à tel type de profil? Moi, je suis financière à la base. Hein. Moi, tu vois, j'ai un cursus de contrôleur financier dans finance d'entreprise. J'ai atterri en contrôle de gestion. D'ailleurs, tout n'est pas perdu pour les contrôleurs de gestion qui peuvent écouter ce podcast. Voilà, vous pouvez devenir extrêmement fun et... non, je bats les stéréotypes là, mais... en tout cas, tout ça pour dire que moi, quand, enfin, la frustration qui est née de notre, la frustration qu'on a identifiée et ce pourquoi on a créé BIM, je m'attendais bien évidemment à satisfaire, si tu veux, les mes pairs, quoi, des contrôleurs de gestion. Et en fait, pas du tout, moi, je voulais créer l'outil de mes rêves, donc je me disais, voilà, du coup, ça va trop plaire à cette nouvelle génération de jeunes financiers, et pas du tout. Il y a une inertie très forte, en fait, dans ces métiers, encore aujourd'hui. Moins, mais encore aujourd'hui. Et donc, en fait, ça ne prenait pas. En revanche, ce qu'on avait sous-estimé, et en tout cas, ce qu'on pouvait voir, c'est que tous les jeunes, le métier du marketing, en fait, était en train d'être vraiment révolutionné, et tu te rendais compte que énormément de projets liés à la data dans les entreprises, étaient de plus en plus pilotés par des CMO, des Chief Marketing Officers, enfin voilà, des directeurs marketing. Pourquoi ? Parce que toutes les nouvelles sources de données, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit toutes les campagnes que tu peux faire, tout ça, en fait, toutes ces données marketing étaient démultipliées, venaient de sources de données complètement différentes, et il fallait quand même pouvoir les analyser avec des nouveaux outils. Et en fait, finalement, on s'est positionné en tant que BI, analyse de données, surtout aussi pour ces profils-là qui ne trouvaient pas d'outils modernes de BI, de business intelligence traditionnelle, qui étaient capables d'aller taper, entre guillemets, dans ces nouvelles sources. Donc en fait, tu vois, c'est tout ce travail qu'on a fait d'aller parler à nos clients, ce que beaucoup de startups encore aujourd'hui oublient de faire. Quoi. Parce que c'est vrai que tu es persuadé de répondre à ton besoin, et du coup tu t'identifies un petit peu trop et même si tu te trompes j'ai prouvé par A plus B que je m'étais trompée sur le type de profil qu'on imaginait servir alors qu'en fait ça voulait pas dire que c'était vain, hein. ça voulait surtout dire aussi que quand t'as une bonne idée, que t'es persuadé mais faut chercher, faut se faire violence, faut chercher et...
D'accord. Pour revenir un peu sur l'histoire de BIM, parce que vous l'avez fondé en couple, et tu le décris comme un avantage concurrentiel.
Ah,
mais
oui.
Mais c'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire finalement la vie de l'entreprise déborde partout et ça va être compliqué à gérer au quotidien, de ne pas avoir de plage. Comment vous êtes organisés tous les deux pour justement continuer à avoir une vie personnelle, entre guillemets
On n'en a pas beaucoup eu. Hein. ce qui est fou, c'est tu apprends beaucoup aussi sur l'être humain et la capacité d'adaptation. C'est fou. Hein. C'est dans ces histoires-là qui sont très tendues, tu vois, où on t'amène vraiment dans ces fameuses montagnes russes en haut, en bas, etc. Tu te rends compte aussi de ta capacité d'adaptation. C'est fou aussi. Créer sa boîte, ne serait-ce que pour connaître ça, c'est important aussi. Pour mieux se connaître. Bref. Avantage concurrentiel, surtout, je pense que c'est une force extrême, en fait, quand tu te lances, parce que déjà, il faut se lancer à plusieurs, voilà. Donc ça, c'est important. Donc nous, on était au moins deux. Donc pour gérer le moral, c'est très important. Et puis si tu veux, le fait d'être en couple, t'as tout ce qui peut arriver pendant la nuit, tout ce qui peut arriver pendant les week-ends, pendant les vacances. De toute façon, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Hein. Ça, c'est sûr quand on se lance. Mais si tu veux, il y avait une proximité, une prise de décision extrêmement rapide et un soutien infaillible, parce qu'on savait qu'on était vraiment dans le même bateau. Quand t'es associé, bien sûr que t'es déjà dans le même bateau, mais t'as des forces aussi extérieures qui sont liées aux familles de chacun, aux envies des uns et des autres, qui à un moment donné peuvent faire qu'il y ait des séparations de cofondateurs. On le voit beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des couples qui se séparent dans les boîtes, etc. Déjà, moi perso, j'en connais pas. Mais en revanche, je connais énormément de cofondateurs qui ont fait exploser la boîte parce qu'ils se sont pas entendus sur le long terme. Donc voilà, moi cette énergie qu'on avait, en fait, le fait de commencer très tôt le matin, de finir très tard le soir, bien sûr, tu parles que de ça, évidemment. Je veux dire, c'est très compliqué d'être hyper discipliné. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de discipliné sur ça. Mon mari, il était un peu plus, donc il y en avait au moins qui est un peu plus raisonnable. Mais n'empêche que moi, je pense que les premières années, on a abattu le travail de 4 personnes à 2. Parce que t'as pas à te justifier qu'il n'y ait pas de week-end, t'as pas à justifier à ton conjoint qu'il n'y a pas de vacances, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de sortie, qu'il n'y a pas de restaurant, qu'il n'y a pas de... Tu vois ? Non, mais c'est hyper important, parce que c'est tellement difficile tout ça que... Moi, j'ai plus... C'est ce que je dis souvent, mais j'ai plus de compassion, en tout cas, pour les... les conjoints, conjointes des autres start-upers, si tu veux, qui ne sont pas dans ce bateau-là et qui ont, je veux dire, tenir un an comme ça, où tu vois ton conjoint, ta conjointe, la tête dans le guidon avec toutes ces problématiques-là, c'est compliqué, quoi, d'un point de vue... Enfin, être accompagné à un créateur de boîte, c'est hyper dur, quoi, je trouve, de partager ce quotidien-là. Donc, au moins, nous, voilà, c'était partagé, on savait exactement quelles limites on pouvait se donner et... Et tu vois, ça ne nous a pas empêché d'avoir un enfant la première année, parce qu'on était un peu punk aussi. Parfois, je me dis, mais n'importe quoi. Enfin, bon, évidemment, j'ai très contente, mais je me dis, mais waouh, quand même, quoi.
Premier enfant,
au bout d'un an de création, quoi. Et ce qu'on, bien sûr que là, aujourd'hui, suite à la vente, on a une situation financière que beaucoup peuvent envier, bien évidemment, et qu'on enviait aussi à l'époque, même si ça ne fait pas tout non plus, mais c'est une époque où on avait du mal à payer notre nourrice, quoi, tu vois, enfin c'est...
Tu te souviens du premier vrai coup dur que vous avez vécu dans l'histoire de la
boîte? Les premiers coups durs, dans l'histoire de quoi?
De la boîte.
De la boîte, les premiers coups durs, c'est que, si tu veux, quand on est reparti chez les parents, qu'il y a eu un moment donné, quand on s'est marié, moi j'ai dit à mon mari, tu sais, vraiment psychologiquement, je ne peux pas revenir marier la bague au doigt chez tes parents. Vraiment, c'est très difficile. Et là, on a essayé de se chercher un appartement, mais tu es dans des situations où tu es entrepreneur, il n'y a aucun propriétaire qui veut ça. Donc en fait, tu es obligé de passer par des parents de copains qui sont plutôt sympas et propriétaires et qui te disent « Bon, allez, ouais, j'ai peut-être un truc qui se libère là. » Et encore un, c'est parce qu'on était chanceux d'avoir un réseau comme ça, mais tu n'as pas le choix, tu vois. Et donc, en fait, tu te retrouves à pas avoir le choix sur plein de choses, tu vois. Ça c'est compliqué, quoi, surtout dans ta vie personnelle. Et ouais, les premiers coups durs, bien sûr, financièrement, c'est compliqué. Quand tu as un premier enfant, tu as envie de plein de choses... Attends, on n'a jamais été dans la misère, hein, tu vois, on a toujours été très bien accompagnés, puis on s'est toujours, on a levé de l'argent aussi pour ça, pour pas être dans des conditions trop compliquées non plus, mais on a été chanceux aussi, mais c'est un inconfort qui dure ou qui peut durer parfois beaucoup plus longtemps. C'est pour ça aussi qu'il faut, moi je dis, enfin quand je vois certains investisseurs aujourd'hui ou business angels qui essaient de un petit peu de matraquer, tu vois, un fondateur de boîte en étant très dur sur les termes, très dur sur les salaires, etc. Je me dis, mais mon Dieu, ils n'ont rien compris, ces gens, quoi. Ils font franchement pas le pari du futur, parce que quand on monte une boîte, c'est tellement un marathon, c'est tellement long, c'est pas vrai. Il y a les TechCrunch et compagnie qui parlent de succès qui, en 2 ans... explose les compteurs, ouais, il y en a, mais c'est epsilon en numériquement, tu vois, par rapport à toutes les startups qui se créent. La plupart, c'est des histoires longues, c'est des histoires qui ont au moins plus de 6 ans, tu vois. Donc si tu commences à si tu commences à serrer les verrous du cofondateur, enfin du fondateur, sur des histoires de salaire ou autre, c'est complète, en tant qu'investisseur, c'est ridicule. Parfois, je leur dis, mais vous vous rendez pas un service, quoi.
Ça arrive encore,
bien sûr. Moi j'en vois tous les jours des jeunes qui me disent, oh là là, j'ai reçu mon pacte, en fait, non mais je m'attendais pas du tout à ça, pacte d'actionnaire, ou tiens, finalement je suis en train de demander tel salaire, en fait, qui paraît juste décent, quoi, pour qu'ils permettent de vivre, et en fait on me dit que je me paye trop, tu vois,
est-ce que ça fait pas partie de ce jeu de la négociation qui est inhérent à la création d'une start-up et qui est particulièrement amplifié tirer dans un sens ou dans l'autre en fonction de sa position.
C'est-à-dire
si tu es fondateur, tu vas forcément essayer de garder le maximum de parts, d'avoir le meilleur salaire.
Non, en fait, mais tu vois, par exemple, il y a des mécaniques que certains investisseurs ont du mal à comprendre, tu vois, parce que peut-être qu'ils ont une logique d'investissement à très court terme. Je pense à des business angels, par exemple. Ils font, déjà, on n'en a pas suffisamment, et ceux qui le font, il faut déjà les applaudir, quoi, toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est très bien. Mais après, il y a des logiques, si tu veux, de long terme. Quand tu vas donner, quand tu souhaites abaisser, si tu veux, le nombre de parts au maximum du fondateur, parce qu'en tant que BA, tu dis, voilà, moi, je prends le risque du tout début. Et en effet, ça reste une négociation. Mais quand tu sais que les histoires longues, et successful, la part que tu vas laisser au fondateur et ce fondateur-là, les parts qu'il va avoir pour ce qu'on appelle incentiver, si tu veux, de nouveaux entrants. La boîte, quand elle grossit bien et que tu as besoin de staffer avec du management plutôt international ou tu vois hyper qualifié. Si t'as plus suffisamment de parts pour faire rentrer ces personnes-là, tout le monde y perd, quoi. Tout le monde y perd. Donc, si tu veux, il y a des logiques aussi d'éducation il n'y a pas suffisamment, justement, d'éducation, je pense, sur c'est quoi un vrai succès sur le long terme et ça implique quoi et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dès le début. Donc, bien sûr qu'il faut leur donner des médailles à tous ces business angels qui se lancent, mais en tout cas qui prennent ces risques-là très early stage, mais il y a encore une incompréhension de quel espace on doit donner à ce cofondateur. Je me permets de le dire, parce que moi j'ai plein d'histoires terribles en fait, où tu vois que les gars se lancent et au bout d'un an il leur reste déjà très peu, ils sont mal payés et tu te dis mais super le gars, ce cofondateur là, vous lui donnez encore un an supplémentaire et c'est bon, il va exploser, puis il va surtout aller se trouver un job salarié, certes très très ennuyant, mais bien payé, quoi. Donc tout le monde aurait perdu. Donc tu vois, après c'est au fondateur aussi de comprendre ce que c'est que le futur aussi, d'argumenter et de bien faire comprendre ces logiques-là aussi à ses investisseurs. Et puis la vérité entre les deux, quoi. Mais tu vois, il y a encore certains scénarios qu'on voit aujourd'hui qui sont aberrants, quoi. Aberrants par manque de culture, par manque d'accompagnement. C'est aussi pour ça que, tout ce qui fonctionne bien dans la Silicon Valley, à savoir plusieurs générations même aujourd'hui d'entrepreneurs qui réinvestissent dans des boîtes et qui du coup acculturent tous ces jeunes en leur disant voilà, fais attention à ça et ça et ça, quand tu vas grandir tu vas à un moment donné avoir besoin de ça, d'avoir plus de leverage sur tel et tel et tel critère, tu vois, de ton entreprise. Ça c'est quelque chose qui se fait assez naturellement dans la Silicon Valley, qui se fait de plus en plus en France, parce qu'on maintenant on commence à avoir une ou deux générations, tu vois, d'entrepreneurs qui remettent au pot entre guillemets et qui éduquent un petit peu plus les jeunes boîtes, quoi. Mais il y a encore beaucoup de travail.
Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'anciens entrepreneurs ou d'entrepreneurs dans les fonds d'investissement en France?
Alors il y a une nouvelle génération aussi de venture capitalistes. Il y en a qui font aussi il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus durs, il y en a qui ont certaines réputations, d'autres, etc. Bon voilà, ça c'est des questions de personnes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de VC, même français, qui recrutent des partenaires qui vont jouer un rôle de DRH ou de DAF, tu vois, et qui vont amener ces compétences-là dans le portefeuille en fait d'investissement, donc auprès des différentes boîtes. Mais là, quand on est VC, on parle déjà d'entreprises qui sont un petit peu plus évoluées. Tu vois, là, je te parle vraiment des problématiques de ceux qui se lancent et qui ont un petit peu de mal avec ce que c'est que d'avoir, quel type de part je me donne. Et puis après, t'as ceux qui sont complètement flippés et qui entendent, qui voient vraiment le verre à moitié vide et puis qui se disent ah non, mais moi je veux surtout pas me diluer, moi je reste comme ça. Et moi je leur dis, les histoires de bootstrap qui finissent comme les MailChimp, il y en a très très peu, quoi. Il y a certaines boîtes qui ont du coup jamais été financés par des investisseurs et qui est tech et qui ont extrêmement bien réussi, donc je parlais de MailChimp, mais ça c'est pareil, c'est Epsilon, quoi. Faut se financer, quoi. Après ça dépend qui tu mets dans la catégorie tech ou quoi, mais grosso modo les succès aujourd'hui, les succès c'est lié à de la prise de part de marché, c'est lié à l'accélération. L'accélération, quand tu vois la compétition que t'as à l'échelle, t'es plus dans une compétition à l'intérieur de tes frontières, quoi. Donc moi je le voyais sur notre produit, j'étais la première à trouver ça fantastique d'avoir accès à un marché mondial, mais enfin ça vient aussi avec une compétition mondiale et des budgets marketing qui seraient supposés être à la même hauteur que les autres, quoi, que t'as pas. Donc tu vois comment être malin et être malin, avoir des ressorts marketing qui fonctionnent bien, etc., faire un peu de growth marketing avec des bonnes idées et tout, ça marche un temps, mais enfin faut surtout du financement, quoi. Ça t'attire pas des super talents internationaux comme ça, tu vois, c'est et tu peux revendiquer d'être malin et puis de te trouver beaucoup plus malin que les autres, etc., mais ça marche qu'un temps, quoi.
Et aujourd'hui, est-ce que ton mari et toi, vous investissez en BA ou pas?
Ouais.
Comment vous choisissez les projets?
Alors, écoute, jusqu'ici, je ne lui donne pas trop le choix, mais il est plutôt sympa, il me laisse faire. En tout cas, il ne s'est pas encore super, super intéressé, mais je pense que quand il va s'intéresser... En fait, moi, je lui ai dit, écoute, je veux le faire tout de suite parce que ça m'intéresse. Enfin, je n'ai pas envie d'attendre pour investir dans des jeunes boîtes. Moi, j'essaie d'avoir un prisme d'investissement plutôt dans les female in tech, donc plutôt femmes, cofondatrices, sujet tech, SaaS, B2B, parce que si je peux apporter quelque chose, je pense apporter quelque chose à peu près de correct à ce niveau-là. Je m'interdis pas de... Enfin, je cherche pas à ce que ce soit des investissements français. J'en fais, mais j'en fais aussi aux États-Unis, donc tu vois, ça c'est pas... Mais en revanche, j'essaie toujours que ce soit plutôt des femmes. Je m'interdis pas des investissements masculins, en tout cas l'idée par des hommes quand ce sont vraiment des bons projets et quand il y en a deux qui m'ont fait des clés de bras, mais bon, je les regrette pas et voilà. Mais sinon, ouais, j'essaie surtout...
T'en as fait combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, écoute, alors si je prends aussi pour information, j'ai fait un investissement dans un accélérateur aussi régional, Montpellier, enfin en tout cas Montpellier-Toulouse, que tu verras après. Donc voilà, tu vois, pour essayer de redonner un petit peu en région, et puis j'ai remis aussi chez un de nos VC en fait qui nous a accompagnés parce que je crois beaucoup en eux. Et quand ils ont dit voilà, on a un pool d'entrepreneurs qu'on essaie de ravoir, donc évidemment Alven Capital, et qui sont super, vraiment super. Et bref, donc voilà, si j'enlève ces deux-là, j'en suis à une douzaine à peu près.
D'accord.
Dans de jeunes boîtes.
Est-ce qu'il y en a une sur les 12 sans fâcher les autres que tu peux citer parce qu'elle est déjà un peu plus avancée ou tu vois déjà la trajectoire?
Écoute, moi je les trouve toutes top. Il y en a une là dans laquelle j'aimerais, je vais te parler de la prochaine là, enfin, en tout cas j'espère que ça va aller au bout, qui s'appelle Chamberlain. Et en fait j'aime bien l'histoire, en fait c'est déjà ça concerne les femmes qui ont des problèmes pour se chausser avec des souliers plutôt luxueux, mais qui ont des problèmes, tu vois, liés à la morphologie de leurs pieds, etc. Donc en fait cette start-up propose une technologie pour scanner les pieds et pour ensuite faire que des souliers de luxe, en fait, donc ils se sont rapprochés, ils ont dans leurs équipes en fait des anciens de Louboutin par exemple, ils sont en Dordogne, donc ils sont proches de toutes les manufactures de cuir, etc. Et ils ont réussi à s'entourer avec un pool de personnes qui travaillent à la base dans le luxe et dans les souliers, donc en fait toute cette expertise là très manufacturière, tu vois, et la technologie de scan, je pense que ça peut être un truc très sympa, quoi. Le luxe n'est pas encore suffisamment intéressé, je pense, à la tech, donc on y vient, hein, tu le vois, hein, d'ailleurs, enfin même à Station F, je vois que tu vois il y a LVMH qui a ouvert un espace à Station F, donc on y vient, mais voilà, ça c'est le genre de boîte dans lequel je crois énormément. Pareil, hein, c'est international, la production est française, mais ça peut tout de suite être à l'international. Et puis après, alors là pour le coup, ce sont deux investissements masculins, mais enfin masculins, les fondateurs
sont des hommes.
Sont des hommes, et une entreprise qui s'appelle Shine, qui propose en fait, qui s'adresse surtout aux indépendants, qui révolutionne la création de comptes, la création d'entreprises, la gestion des dépenses, etc. Enfin, qui vraiment aide l'indépendant à se sortir de toutes ces questions liées à l'administratif. Et puis, une autre que je ne peux pas encore dire parce qu'ils n'ont pas encore communiqué. Et puis sinon, aux États-Unis, dans des jeunes femmes qui font du software, SaaS, B2B, ou alors un petit peu de B2C, ça m'intéresse. Ouais.
D'accord. Qu'on reprenne juste un... Parce que si tu peux être business angel aujourd'hui, c'est parce que toi et ton mari, vous avez bien vendu BIM Analytics, 45 millions de dollars ou d'euros ?
45 millions de dollars, et après, on avait 10 millions en actions aussi.
D'accord.
En tout cas, 10 millions à l'époque.
Moi, ce qui m'intéresse d'aborder, c'est ce que comment vous avez souhaité intégrer l'ensemble des salariés de BIM à cette aventure. Donc, il y a eu 480 000 actions distribuées, c'est ça ?
Ouais, j'ai plus le chiffre.
Je crois que c'était le chiffre que j'avais, en tout cas... qui était donné à l'époque. Quand est-ce que vous avez prévu ça ? Quand est-ce que vous vous êtes dit, de toute façon, cette histoire-là, si ça tourne bien, il faut que tout le monde soit intéressé ? Donc,
Ouais, alors en fait, on a fait le pari de leur dire qu'on commençait à être approché par Zendesk. C'était, alors passez-moi le mot, mais c'était extrêmement casse-gueule et très risqué de parler de ce genre de choses parce que l'entreprise qui nous approchait était une boîte cotée et que la moindre news en fait qui pouvait être divulguée, forcément c'était ça tuait en fait, ça pouvait tuer une quelconque initiative, tu vois, de rachat. Donc on leur a, en revanche, on les a toujours considérés comme des adultes. Il y en avait une grande partie qui était, nous on n'a jamais donné de BSPCE pour information, qui est un véhicule qui est très utilisé pour partager la valeur dans les entreprises, chez les startups. Nous, en fait, on leur a toujours permis de rentrer vraiment en dur en tant qu'actionnaire. Parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était pas tant la valeur, les montants qui étaient intéressants en fait pour ces jeunes. C'était la confiance et la transparence. Et en fait, en tout cas, nous, les nôtres, notre équipe était plutôt intéressée par ça. Et en fait, en les faisant rentrer en tant qu'actionnaire, bien sûr que c'était plus compliqué pour eux financièrement. De se mettre au niveau des valorisations d'un VC, tu vois, mais en même temps ils savaient qu'avec ces montants là avec ces petits montants, ils avaient accès comme les plus gros VC à la même documentation, parce qu'ils rentraient vraiment en tant qu'actionnaires, et ça c'était vraiment la fibre en fait qui était qu'on allait chercher chez eux et qui en tout cas leur parlait, qui était importante, la transparence et la communication.
Ils étaient combien
à cette époque-là? Ils étaient presque une quinzaine, tu vois. Autant te dire que c'était très compliqué pour la moindre communication, mais je prenais sur moi et sur en frais d'avocat pour gérer. Je pense que certains entrepreneurs, s'ils nous écoutent, doivent se dire mon Dieu. Mais bon, nous c'était notre pari, en tout cas c'est ce qui fonctionnait bien. Et c'est vrai que quand on a été approché, on s'est dit, bon ben voilà, on aurait pu encore cacher les choses, en tout cas attendre que ça aille un peu plus loin. Mais on a choisi de leur dire, ben voilà, il se passe peut-être ça, on vous fait confiance. Et je pense qu'en fait, ça les a encore plus boostés qu'on leur en parle très tôt. Et moi, je sais que la personne, par exemple, qui était très proche de moi en admin, a vraiment annoncé la nouvelle à sa femme. Seulement le soir de l'annonce de la vente, pour te dire, hein, tu
officiel,
vois,
ouais, officiel,
voilà. Mais vraiment, ils n'en avaient vraiment, vraiment, vraiment pas parlé autour d'eux. Et mais en fait, je pense que du coup, ça nous a permis d'être bien accompagnés aussi, d'être aidés par cette équipe qui voyait ce qu'on était en train de vivre aussi avec mon cofondateur. Et on a eu cet accompagnement sur le business, en fait, parce qu'on est forcément des focus, quoi. Hein. C'est très compliqué de rester focalisé quand vous avez... quand vous êtes en période de due diligence, etc., même si tout s'est passé extrêmement rapidement. Mais en fait, cette transparence-là nous a permis d'avoir une équipe très soudée autour de nous, quoi.
Et ça a duré combien de temps, ce processus-là ?
Processus, en fait, ça a duré jusqu'à... On a été approchés, on va dire, en juin, fin juin, et puis mi-octobre, on signait tous les papiers.
2015.
Donc ça veut dire... en 2015. Donc ça voulait dire qu'en très peu de mois, là-dedans, il y avait aussi... in due diligence, il y avait beaucoup de Ernst & Young, il y avait toutes ces étapes là, quoi. Donc c'était
plus, j'étais enceinte.
Et en plus j'étais enceinte, ouais. J'étais enceinte. Et en fait, j'ai surtout quand on a commencé à être approché, je pense que au bout de 15 jours où on commence à sentir que les appels deviennent un peu comment dire, enfin bref, qu'il faut vraiment qu'on soit bête pour pas lire entre les lignes. Je me rends compte 15 jours après que je suis enceinte de mon deuxième. Et du coup, je leur dis, c'était mon moment employeur à moi, où je leur dis, écoutez, by the way, je crois que... Enfin voilà, c'est pas que je crois, mais je suis enceinte pour ce que ça vaut. Enfin voilà, je me permets juste de vous le dire. Et puis la réponse était très chic. Ils m'ont dit juste en une phrase, Zendesk loves babies. Point. Et on a tellement trouvé ça chic aussi. Ça voulait dire beaucoup aussi sur la culture de l'entreprise. Et ça, c'était même pas le PDG qui me disait ça. C'était le M&A. Donc ça veut quand même dire que ils sont pas allés voir. Ils m'ont tout de suite répondu du tac au tac. Donc ça voulait quand même dire qu'ils n'avaient pas eu à aller demander C'était spontané. Qu'il n'y avait pas eu. Une réunion au sommet de ces gens-là pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça voulait dire beaucoup pour nous. Ça voulait dire que toute la boîte était comme ça, grosso modo, et que culturellement, on était déjà avec des gens bien, quoi, en tout cas.
Et quand vous mettez à la...
Ça paraît juste, peut-être que... Enfin, il y en a qui me disent, non mais Rachel, c'est le béaba, je veux dire, c'est juste naturel. Non, c'est pas vrai, on n'est pas encore arrivé dans ce monde-là aujourd'hui. Ouais. Donc,
quand vous mettez avec cette opération à l'abri financièrement, est-ce que vous dites à un moment donné, on va passer à autre chose, ou est-ce que au moins vous avez l'idée de vouloir passer à autre chose, ou est-ce que vous êtes tout de suite dit, faut qu'on continue l'aventure, continue.
En fait, je pense que ce genre de réponse, ça dépend complètement dans quel état d'esprit tu as vendu. Est-ce que tu as vendu pour justement jeter l'éponge ? En fait, tu vois, c'est qu'est-ce qui a motivé la vente ? Nous, la vente, on n'était pas à un moment de la vie de BIM où on devait vendre. Dans le sens où, on avait cette obligation-là. On n'était pas obligé, tout se passait très bien. On était sur une boîte qui se développait très vite, qui continuait très fort. On venait de lancer ça faisait 18 mois à cette époque-là qu'on avait déjà lancé les États-Unis, en tout cas la filiale aux États-Unis, avec une équipe qui grossissait, qui était formée. Enfin, tu vois, ça vraiment, on avait tous les fruits de ces investissements-là enfin, tout était ouvert. Le marché était ouvert et quand on a été approché, c'était vraiment, c'était de manière très proactive en fait de la part de Zendesk. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'accélérer et d'avoir accès à un portefeuille de clients Zendesk aujourd'hui, c'est plus de 100 000 sociétés clientes. Donc forcément, quand t'as un groupe, une société qui vient te voir en te disant mais tu pourrais aussi avoir accès à ça, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, t'as tellement envie que ton produit en fait soit mis dans le plus de mains possible. C'est même pas tant une question de revenus ou autre. Tu vois, tu te dis voilà, je vais enfin pouvoir cocher cette case que je veux cocher depuis tellement longtemps, de scaler ça, de passer à l'échelle. C'était surtout ça ce qui était motivé, quoi. La motivation, c'était on va pouvoir vraiment exploser, on va pouvoir avoir accès à tous ces nouveaux clients là et se prouver encore plus de choses et se développer encore plus vite, et puis faire que intégrer une boîte comme ça avec une super culture. Donc quand tu as dit ça, tu te dis que tu te mets en position où tu as envie de continuer. Parce que ce qui a motivé ce rachat, c'était pas de fermer la porte et de se mettre à l'abri, et tu vois, c'était pas ça. Donc regarde, 2 ans après, on y est encore, et c'est pas des histoires de lockout, parce que nous, le deal n'était pas fait comme ça. On a été aussi très chanceux sur la manière dont le deal a été conclu.
Quand tu vois aujourd'hui les rachats de start-up, tout à l'heure, juste avant de l'enregistrement, on parlait de Recast. On ne connaît pas le montant, mais on sait qu'il est important, plusieurs dizaines de millions d'euros. Zenly, 250 millions d'euros ou de dollars. Est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné, on a vendu il y a 3 ans, est-ce que ce n'était pas un chouïa trop tôt ?
Non, parce qu'en fait, on a tous énormément appris. Moi, je sais que j'ai beaucoup... Tu vois, c'est tellement dur de scaler. Tu ne nais pas en sachant ce que c'est que d'amener une entreprise de 0 à 100 000 salariés. C'est très compliqué, ça. Et en fait, moi, j'ai aimé apprendre de passer d'une boîte où on était quoi, une petite cinquantaine, États-Unis inclus, à une boîte, quand ils nous ont racheté, ils étaient 1200. Bon, aujourd'hui, ils sont déjà plus de 2000. Tu vois, de voir aussi la mécanique et toutes les peines qui viennent avec la scalabilité et les recrutements, la technologie, tu vois, toutes ces logiques-là, c'est extrêmement intéressant. C'était pas trop tôt, dans le sens où c'était un vrai bon moment. Le marché était la maturité en fait du projet, la vision qu'avait Zendesk à ce moment-là sur les data, l'accès de leurs clients aux data, etc. Ça, c'était il y avait cet alignement de planète, donc non, je regrette pas, non, je pense que c'était plutôt, en tout cas à ce moment-là, ça cochait énormément de cases qui nous correspondaient à mon mari et moi, à mon cofondateur et moi.
Et donc tous les deux, vous êtes encore jeunes, vous avez 2 enfants.
On a moins de 40 en tout cas, je sais pas si on peut se considérer comme jeunes.
Est-ce que vous conseilleriez à vos 2 enfants de se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Bah ouais, je pense que c'est hyper, hyper épanouissant. Après, franchement, faut voir... Tu vois, t'as des profils qui sont beaucoup moins... qui sont plus risque adverse. On verra quel type de profil ils auront, ces enfants, en grandissant, quoi. En tout cas, bien sûr qu'on ne pourra que les aider, les motiver, si jamais ils ont envie de monter quelque chose, quoi. Je pense que... Tu vois, moi, j'avais un père expatrié en Afrique, qu'on ne voyait pas forcément beaucoup, une mère au foyer. Et puis, tu vois, je viens pas d'une... Même si quand même l'expatriation, je pense que ça dénote quand même un côté un peu aventurier et entrepreneur, mais N'empêche que tu vois, je viens pas d'un milieu comme ça, donc bon, voilà, on verra ce qu'ils ont envie de faire, et en tout cas, on sera là pour les encourager, parce que t'apprends très vite, très tôt, beaucoup plus de choses que dans des cursus plus traditionnels, quoi, des carrières plus traditionnelles.
Merci Rachel.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Takeoff, un podcast proposé par Les Échos. Merci de nous suivre, vous êtes déjà très nombreux et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Bertrand Diard, cofondateur de Talen, l'une des très rares entreprises françaises à s'être financée au Nasdaq.